Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc aujourd'hui, nous allons partager sur la destinée. Il y a des gens qui croient que nous avons une destinée, d'autres croient que nous n'en avons pas. Qu'on soit chrétien ou non chrétien, ça ne fait pas de différence. Il y a des gens qui croient que nous sommes destinés à quelque chose. Alors pour nous, c'est important de voir, non pas ce que nous croyons ou ce que nous pensons, mais que dit la parole de Dieu. Est-ce que le Seigneur pense que nous avons une destinée?
Oui.
Le Seigneur a prévu pour nous une destinée dans le même sens, je dirais, que nous parents avons destiné des choses à nos enfants. Nous avons prévu des choses pour eux. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Ce qu'on entend souvent, c'est que les parents disent « Nous voulons qu'il l'ait mieux que nous l'avions. » Donc, ils vivent à un niveau au-delà, supérieur à tous égards. C'est ce qu'on entend souvent, cette déclaration. Les parents veulent que leurs enfants aient un avenir qui soit meilleur que les choses qu'eux-mêmes ont dû expérimenter. Souvent, eh bien, la plupart des gens ont dû traverser des choses difficiles et ils souhaitent surtout pas que leurs enfants aient à faire les mêmes expériences négatives. Mais la réalité de la vie, c'est que les enfants, eh bien, font souvent aussi leurs propres expériences. Mais si on peut leur en éviter un certain nombre, on sera heureux de cela. Et en ce qui concerne le Seigneur, lui n'a pas, en tant que père, il n'a pas traversé des choses négatives et qu'il veut nous éviter. Mais comme il voit tout, il sait tout et connaît tout, il voit à l'avenir ce qui est bon pour nous, ce qui est mauvais, et il cherche absolument à nous éviter certaines choses et aussi à nous faire rentrer dans d'autres. Dans un instant, je vais en parler plus précisément, parce que j'aimerais tout de suite dire qu'il y a une chose qui ne marche pas du tout, mais alors pas du tout, c'est de vouloir contraindre un enfant à accomplir nos propres désirs. Ce qu'on n'a pas pu faire, eh bien on veut amener un enfant à le faire. Ouvrons la parole de Dieu dans le psaume 31 au verset 16. On va juste prendre la première partie du verset, où il est écrit « Mes destinées sont dans ta main ». Tout le monde a ce verset? Et si vous avez une autre version, c'est bien ça. « Mes destinées sont dans ta main ». Oui. Ce qui est intéressant, c'est au pluriel. Il n'est pas dit « ma destinée est entre tes mains », mais « mes destinées ». Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, je crois que c'est important. C'est qu'il n'y a pas une destinée, un plan, quelque chose que je dois accomplir, qui est mystérieux. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est quelque chose du style, vous savez, les voies du Seigneur sont impénétrables. Alors, il y a quelque chose là que Dieu a pour moi, mais c'est comme dans un nuage opaque, et je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait que je le découvre, c'est tellement mystérieux. Mais ici, il est dit, « Mes destinées sont dans ta main ». Et moi, je crois que lorsque nous avons une grande tâche à accomplir, eh bien, des fois, on peut être comme écrasé par l'importance du travail à faire. Alors, il y a un truc, entre guillemets, quelque chose qui nous aide beaucoup, c'est quand on a un grand travail à faire, eh bien, on découpe en multiples morceaux, en multiples étapes. C'est comme si vous construire une maison soi-même, ce serait énorme. Mais si vous regardez étape par étape, toutes les petites choses qui doivent être accomplies, vous dites, je ne peux pas construire la maison en un jour, mais ce que je peux faire, c'est je peux, étape par étape, y aller et réaliser. De la même façon, je crois que si je vous disais, est-ce que tu es maintenant en train d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que la destinée que Dieu t'avait préparée, tu es en train de te diriger vers cette destinée? Vous auriez peut-être du mal à répondre, mais quand nous lisons ici dans la Bible « Mes destinées sont dans ta main », nous pouvons voir que Dieu nous a destinés à un certain nombre de choses. Pas seulement un grand plan global, mais un certain nombre de choses pour notre vie. C'est comme si quelqu'un, par exemple, a bientôt son anniversaire, et puis on n'attend pas le jour de l'anniversaire forcément pour lui faire, pour lui apporter le cadeau, ou pour le faire, ou pour l'acheter. Alors on prépare à l'avance. On met peut-être un beau paquet, et puis on écrit son nom dessus, destiné à, pour l'occasion de son anniversaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ce jour-là, il n'aura peut-être pas seulement un paquet, parce qu'il y aura plusieurs personnes qui vont venir. Eh bien, de la même façon, vous avez votre Père Céleste qui a préparé beaucoup de choses pour vous, à la fois sous forme de cadeaux, et à la fois sous forme de choses que vous allez réaliser. Maintenant, il vous faut découvrir ces destinées. Il y a une chose que nous allons voir, juste une chose, un aspect, ce matin, c'est que nous sommes destinés à élever des champions pour Dieu. C'est un des aspects du plan de Dieu pour notre vie. Alors, s'il y avait des gens qui n'ont pas d'enfants, ils diraient, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment je vais m'en sortir? J'ai pas d'enfants, donc ça ne me concerne pas. Nous savons que dans n'importe quelle situation, vous pouvez voir les choses sur le plan naturel ou sur le plan spirituel. Si vous avez des enfants, vous êtes destinés par Dieu à élever ces enfants du mieux que vous pouvez et en faire des champions pour Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Ou est-ce que vous voulez qu'ils soient des ratés pour Dieu? Non, c'est aussi simple que ça, la question elle est là. Qu'est-ce que vous désirez? Je ne dis pas qu'est-ce qui va se passer, ce n'est pas de votre responsabilité ce que l'avenir sera. Votre responsabilité c'est ce que vous croyez aujourd'hui et ce que vous faites pour arriver demain à un résultat heureux. Donc une chose qui est importante, c'est de voir que Dieu a préparé des choses pour moi. Il a une destinée pour moi. Dans cette destinée, il y a une multitude de destinées dans ma vie. Et une des destinées particulières qu'il a, c'est qu'il m'a destiné à élever des champions pour Dieu. Vous savez que Jésus n'était pas marié, hein? Il n'avait donc pas d'enfant. Mais dans le livre des Hébreux, au chapitre 2, il dit « Me voici et les enfants que tu m'as donnés ». D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait de ses enfants? Dans Jean 17, il dit, « Tous ceux que tu m'as donnés, j'en ai perdu aucun. Je m'en suis occupé. » Certains de ses disciples étaient plus vieux que lui. Mais à un moment, il va les voir, à la fin, quand il était mort et qu'ils étaient découragés, mais lui, il était ressuscité, mais ils n'arrivaient pas encore vraiment à le croire. Et puis à un moment, il vient et leur dit, « Petits enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et moi, j'imagine toujours comme on le fait des fois sur certains tableaux, il y avait là, parmi eux, certains qui étaient plus vieux que lui. Il avait une grosse barbe, et puis peut-être qu'il était même plus grand que lui. Il leur dit, petits enfants, n'avez-vous rien à manger? Et dans le sens que lui a aussi, il nous a précédés en toutes choses. Il avait vu que le Père lui avait confié ces quelques personnes pour qu'il les appelle. Hein? Il les a appelés. Viens, suis-moi. Comme il nous a appelés chacun entre nous. Ensuite, il les a pris avec lui. Il nous a dit, il a choisi les disciples pour les avoir avec lui. Et il les a eus avec lui pour les former. Et ensuite vient un moment où il dit, maintenant, allez. Donc il y a, viens, un temps de formation, et puis va. Et pour nous, c'est la même chose. Les enfants nous sont donnés, ils sont avec nous pour un temps, et puis il y a un temps viendra, il va dire maintenant, va, fais ton chemin, vis ta vie. Tu ne vas pas rester chez papa et maman jusqu'à ce que tu aies je ne sais quel âge. Tu as besoin de vivre ta vie. Mais il est important que le moment où on lui dit va, pas dans le sens de le chasser de la maison, mais dans le sens de maintenant c'est le moment, tu es grand, tu dois être autonome, eh bien qu'il soit prêt. Qu'il soit formé, prêt à affronter la vie. C'est pas forcément une question d'âge, parce que c'est une question de maturité, c'est une question d'avoir appris un certain nombre de choses. Il y en a certains qui peuvent quitter la maison plus tôt, d'autres n'ont pas appris. Et puis, c'est dommage s'il y en a qui partent trop tôt, qui claquent la porte et quittent la maison parce qu'ils supportent plus et que ça n'a pas marché, la formation. Ils l'ont pas reçue. Alors nous devons voir ces choses, mais l'important c'est que nous puissions nous situer déjà dans cette volonté de Dieu. Dieu m'a destiné à élever des champions. Vous pouvez le dire avec moi ? Dieu m'a destiné à élever des champions. Peut-être pour une femme au foyer, une mère de famille qui est à la maison, ce message fait particulièrement écho, mais j'aimerais surtout dire que personne n'est exclu. C'est pour les mères, mais c'est aussi pour les pères, et c'est autant, il y a autant à en tirer de ce message pour des gens qui n'auraient pas d'enfants. Parce que, si vous vous rappelez, il y a un message que j'aime particulièrement donner. Nous avons tous besoin d'un Paul, d'un Barnabas et d'un Timothée. Eh bien, nous sommes tous appelés à avoir au-dessus de nous quelqu'un de spirituellement plus mûr, quelqu'un qui peut nous donner des directions, qui peut nous reprendre, qui peut nous encourager, qui peut nous montrer les choses qui ne vont pas. Nous avons tous besoin d'un Barnabas qui est le compagnon, celui qui encourage, qui a toujours une parole pour nous fortifier. Et nous avons aussi tous besoin pour notre équilibre spirituel d'un Timothée, d'un enfant dans la foi, quelqu'un que nous amenons à Christ, que nous aidons à grandir. Ça peut être notre enfant naturel, Timothée, et en même temps enfant spirituel. Dieu peut que le Seigneur crée cela, et c'est merveilleux. Quand vous êtes, vous, le parent, ceux qui peuvent conduire à Christ vos propres enfants et qui peuvent les amener à grandir en lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui peuvent avoir une influence, mais vous serez forcément les personnes qui vont le plus les influencer. Rappelez-vous que Jésus vivait avec ses disciples. Donc si nous voulons former des disciples et que nous ne vivons pas sous un style de vie de communauté où nous serions tous ensemble, habités ensemble tout le temps, eh bien nous formons tout de même des petites communautés chrétiennes, on peut dire, chacun dans notre foyer, là où nous sommes, parce que nous sommes là ensemble. Ensemble avec les avantages et les désavantages. Il y a les moments agréables et les moments difficiles. Les moments où on a des fois du mal à vivre ensemble. Vous croyez que c'est toujours facile ? Ce serait facile s'il n'y avait pas l'adversaire de nos âmes qui cherche sans cesse à créer des tensions et des problèmes. Et donc, nous sommes destinés à ça. Élever des champions pour Dieu. Quel est le début d'un champion ? La genèse d'un champion ? Eh bien, au début, souvent, il y en a qui sont des spécialistes pour détecter les champions. Je parle en particulier en matière sportive. Ils arrivent à détecter celui-là. Il a quelque chose, il est doué, il va arriver à des sommets. Mais des fois, on n'arrive pas du tout à détecter un champion. Par exemple, l'entraîneur d'athlétisme de Carl Lewis, quand il était jeune homme, lui a dit « Des gars comme toi, il y en a des milliers ». Il n'était pas du tout encouragé, mais je pense qu'après, s'il y a repensé, en voyant Carl Lewis participer à 3 fois aux Jeux Olympiques, ayant combien il en a en tout, 9 médailles d'or, à la fois en course, en saut en longueur et en relais, eh bien après, tout le monde dit, mais on l'appelait même le roi Carl, tellement il dominait la matière. Mais à un moment, son entraîneur lui a dit, des gars comme toi, il y en a des milliers. Tu n'es pas spécial, tu ne vaux pas plus que les autres. Alors je crois pour nous c'est important aussi. Le diable vient peut-être aussi comme ça, pour nous décourager. Tu n'es pas un numéro spécial pour qui tu te prends. Hein? Tu ne vaux pas plus que les autres. Tu ne feras jamais rien de spécial. Eh bien, nous n'avons pas besoin de l'entendre lui, mais d'écouter ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit, viens, suis-moi. Reçois mes instructions, laisse-moi former par toi, et puis je t'enverrai. Et ce qui est valable pour la formation d'un champion, ça veut dire que nous-mêmes, d'abord, nous nous plaçons dans cette formation. Comment vous voulez apprendre quelque chose à quelqu'un que vous-même ne savez pas ? C'est difficile. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, quand il écrivait à Timothée, qu'il considérait comme son enfant dans la foi, dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » À ce moment-là, deuxième épître à Timothée, Timothée, ça fait longtemps qu'il n'était plus un jeune homme. Il était un jeune homme quand Paul l'a emmené la première fois. D'accord ? Ils ont voyagé ensemble pendant un moment. Et ensuite, il se trouve que Timothée était établi dans certaines églises comme apôtre, pasteur. Et Paul, des années après, lui écrit de loin en disant « Mon enfant, fortifie-toi. » Parce que vous pouvez avoir un âge avancé, eh bien, vous serez toujours l'enfant de vos parents. Ça ne change pas. On ne parle pas là d'état naturel, on ne parle pas de stature, on parle de relation. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà le programme de Dieu. Que non seulement vous appreniez des choses pour vous, mais que vous les appreniez tellement bien que vous soyez capable, vous, de les apporter. On ne peut, je pense, dire réellement qu'on a reçu un enseignement que dans la mesure où on a tellement assimilé qu'on est capable de le donner. Hein ? L'exemple est simple. Si à la sortie de tout à l'heure, je vous pose une question, alors qu'est-ce que vous avez reçu, qu'est-ce que vous avez dit ? Si quelqu'un, par exemple, est venu seul, le conjoint n'est pas là pour une question, pour une raison ou une autre, et il se pose la question, alors qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il y avait ? Et il dit, ah, je ne me rappelle plus de rien. Alors ça veut dire que vous ne l'avez pas reçu. Et c'est pour ça que beaucoup de gens peut-être écoutent pendant des heures, des heures, des heures, mais s'ils ne le reçoivent pas, quelle différence ça fait ? Il faut le recevoir, et la meilleure façon de voir si on l'a reçu, c'est qu'on est capable de le redonner. Donc la genèse d'un champion, le début, des fois, rien ne laisse paraître que ça va être spécial. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes tellement particuliers pour lui, tellement spéciaux que les anges se posent des questions. Dans le psaume, il est dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Qu'est-ce que c'est que cette créature que tu as faite ? Qu'est-ce que c'est que cette créature, un homme, être humain, homme ou femme ? Il se pose des questions, mais pourquoi tu lui donnes tant d'attention ? Pourquoi tu l'as investi d'un tel pouvoir ? Pourquoi est-ce que c'est les hommes qui plus tard jugeront les anges ? Il se pose des questions. C'est parce que Dieu nous a créés et nous sommes des créatures spéciales à ses yeux. Nous sommes ceux qu'il a choisi d'avoir comme vis-à-vis. Égal, presque égal à lui-même. Parce qu'il est dit de peu inférieur. Tu l'as créé de peu inférieur. Ça ne veut pas dire que nous nous prenons pour des dieux, que nous sommes divins. Mais ça veut dire que nous comprenons à quoi nous sommes appelés. Donc il y a un temps de préparation. Un temps de préparation qui commence dans l'enfance. Donc maintenant, je ne vais pas y revenir tout le temps, hein. On prendra les exemples dans le naturel et vous pourrez aussi le transposer à des choses spirituelles. Mais on va prendre les choses du point de vue naturel. Ecclésiaste 12, au chapitre 12, donc verset 3, il dit « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Il y a un temps favorable, le temps de la jeunesse. Il ne faut pas rater le temps de la jeunesse. Soyez surtout pas pressés que vos enfants grandissent trop vite. Moi, j'en sais quelque chose, parce que, vous savez, les bébés demandent beaucoup de soins. Beaucoup de soins, beaucoup d'attention. Un petit qui commence tout juste à marcher à quatre pattes, comme on dit, et puis qui commence à se redresser, c'est une situation de danger, je dirais presque permanent. Permanent. Il faut tout le temps faire attention. Est-ce qu'il n'y a pas des objets dangereux, des arêtes tranchantes, des trucs durs, des escaliers ? Et donc, il a besoin de soins permanents et d'une attention continue. Et c'est très fatigant. Alors, on aimerait bien se dire, en tant que parent, pourvu qu'il sorte vite de ce stade et qu'il soit plus grand. Et ensuite, il y a aussi toute cette période où ils ne sont pas propres. Il faut leur donner des soins, il y a les couches et tout ça. Alors, on a envie de dire, pourvu qu'ils soient plus grands et qu'on ait passé cette étape. Et ensuite, il y a l'étape où, eh bien, il faut quand même encore les réveiller le matin, les préparer, les amener à l'école. Et on pourrait se dire, pourvu que vienne le temps, je ne sais pas moi, du collège, où là, bah, ils prendront leur vélo, ils iront tout seuls, et puis ils n'auraient plus besoin de les conduire. Et ainsi de suite, et finalement, on dira, ah ben, pourvu que vienne maintenant le temps où ils seront grands et autonomes et ils se débrouillent tout seuls. Mais alors, toute l'enfance est passée, et par là est passée une période privilégiée pour nous. Une période de relation, une période où nous les avons en permanence avec nous. Des fois, en tant que parents, il faut être honnête, on aimerait avoir un petit peu plus de liberté, un peu plus de tranquillité, un peu plus de repos. Mais ce n'est pas parce que nous n'aimons pas leurs enfants, nos enfants, simplement parce qu'on en a besoin. Mais pour nous encourager, disons que reconnaissons ce temps privilégié, ce temps favorable. Nous sommes leur source principale, du moins je l'espère, d'influence. Parce que nous passons normalement du temps avec les petits. Pour toutes les raisons que je vous ai dites. Et donc c'est important de voir que le monde cherche à faire tout ce qu'il peut, pression au niveau argent, les placer dans des crèches tout petits, des nourrices, où l'école les prend en charge du matin jusqu'au soir, si ce n'est pas des internats ou des autres choses. Et alors, qui va les élever? Qui va les influencer? Qui va leur donner les valeurs qu'ils auront plus tard, si ce n'est pas nous? Et moi, je préfère, eh bien, m'en occuper moi-même, parce que Dieu me les a confiés. Et je ne peux pas non plus faire cette prière, « Seigneur, je te remets mes enfants entre tes mains. » Parce qu'en réalité, c'est le Seigneur qui les a remis entre mes mains. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Je ne peux pas juste dire, « Seigneur, occupe-toi de mes enfants. » Non, il y a une prière que nous pouvons faire, parce que certaines choses échappent à notre contrôle, à notre attention. Contrairement à ce que j'ai dit pour les tout-petits, on n'est jamais 24 heures sur 24 à surveiller un enfant. Donc il y a une prière de consécration et de foi pour que le Seigneur veille sur eux, mais il y a aussi des responsabilités auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Il y a aussi un problème que je voudrais juste évoquer en passant. S'il y a des parents qui n'étaient pas convertis, pas chrétiens, pendant l'enfance de leurs enfants. Alors il y a des fois des tensions, il y a des problèmes parce que les parents change de style de vie en cours de route, mais l'enfant n'a pas été influencé, n'a pas été imprégné. Et là, il y a des défis particuliers, il y a des problèmes qu'il faut savoir affronter. Il y a aussi ce que l'apôtre Paul disait dans Galates 4, que je trouve vraiment très précieux pour nous, un passage de l'Écriture, et il dit dans Galates 4, 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Alors c'est un petit peu étrange de voir que c'est un homme qui a écrit ça, par rapport aux douleurs de l'enfantement. Peut-être les mamans pourraient en parler. Mais là, c'est un homme qui l'a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et Jésus avait déjà donné cette illustration concernant sa mort et sa résurrection. Il a dit, c'est comme ce temps où la femme sent que son heure est venue de mettre un enfant au monde, et puis elle sait qu'il y aura une souffrance, mais après la joie de la naissance sera plus grande que ce qu'elle a traversé. Et bien de la même façon, il se peut que pour nos enfants, eh bien c'est pas de l'instantané, hein, vous l'avez remarqué déjà. C'est un effort continu, et des fois on a des avancées, et puis après on est de nouveau déçu par un comportement, on aurait dit, ah ben depuis le temps, il aurait dû déjà réagir autrement, ou on aurait attendu plus de choses. Eh bien, l'apôtre Paul l'a vécu aussi par rapport à ses enfants spirituels. Il a dit, j'ai besoin de passer de nouveau par les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il n'est pas dit, jusqu'à ce que vous ayez reçu Jésus-Christ dans votre vie. Et vous soyez né de nouveau, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. D'accord? Le champion pour Dieu, c'est quelqu'un qui aura Christ formé en lui. Avant, il n'est pas champion. Il est candidat à être champion, mais il n'est pas encore un champion pour Dieu. J'aimerais vous donner une petite illustration. d'ailleurs m'a inspiré pour ce matin. C'est une madame qui s'appelle Madame Duining. Cette Madame Duining habitait aux États-Unis dans une grande ville. Elle avait été élevée dans une famille où il y avait un niveau de vie élevé, à la fois matériel, mais aussi à tous égards. Éducation, donc scolarité, culture, art. Elle habitait dans une ville, beaucoup de contacts. Et voilà qu'elle se marie, qu'il déménage et qu'elle arrive à la campagne, dans un tout petit village où il n'y avait rien. Elle était consternée. Elle dit, Seigneur, elle était chrétienne. Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire dans cet endroit? Des fois, on dit un petit peu familièrement, dans ce trou, il y a des endroits où il n'y a pas grand-chose. Elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Elle avait tellement l'habitude d'être au contact avec plein de choses de la vie. On peut aimer ou pas aimer, hein, de ce qui se passe dans le monde. Mais c'était son style de vie et elle trouvait que c'était un style élevé dans le sens de beaucoup de choses qui se passaient. Et le Seigneur lui a donné une mission. Il lui a dit, je veux que tu élèves des champions pour moi. Elle a eu quatre garçons, c'est vrai, ça s'est passé il n'y a pas longtemps, hein, c'est vrai, je connais un des garçons. Elle a eu quatre garçons et elle a fait tout ce qu'elle a pu à son niveau dans son petit village pour leur donner la meilleure éducation possible. Qu'est-ce que ça veut dire la meilleure éducation possible? Ça veut dire premièrement montrer de l'intérêt pour les enfants. C'est la première chose. Un enfant pour lequel on ne montre pas d'intérêt, pourquoi il ferait quoi que ce soit? Personne ne s'y intéresse. J'ai 0, j'ai 20 sur 20, tout le monde s'en fiche. Alors, pourquoi travailler? Vous voyez? Mais si quelqu'un s'intéresse, dire alors comment c'était à l'école? Est-ce que ça a marché? Pense juste le côté scolaire maintenant, hein? Ça peut être valable pour d'autres choses encore. Vous dites à l'enfant de ranger sa chambre, mais vous n'allez jamais vérifier est-ce qu'il l'a fait ou non. Assez rapidement, il n'y aura pas de résultat. Donc, elle a vraiment travaillé, montré de l'intérêt pour ses enfants. Elle dit c'est mon rôle, c'est ma mission. Et parmi ces quatre garçons, il y en a un qui est médecin et il y en a trois qui servent le Seigneur. Un comme missionnaire dans une île, je ne sais où, dans le Pacifique. Et il y en a un qui est dans l'école biblique de Réma et c'est lui qui s'occupe d'envoyer les serviteurs de Dieu dans le monde entier. Et le troisième est un enseignant de la parole de Dieu qui voyage partout, qui a écrit déjà au moins 4 livres. Et ces garçons sont doués musicalement. Ils chantent, font des instruments. Et puis, vraiment, je veux dire, non seulement par rapport au standard de Dieu, ils ont réussi, parce qu'ils servent le Seigneur, et d'un niveau élevé, mais même au niveau du monde, c'est un standard de qualité. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il est important de voir que, bien au-delà d'un désir personnel d'une maman de voir ses enfants réussir, c'était pour elle une mission de Dieu. Je te donne comme objectif de t'occuper de ce que ces enfants que je te donne, eh bien, deviennent des champions pour mon royaume. Et je me suis dit, est-ce que c'est un appel spécial? Est-ce que c'est juste valable pour cette personne? Et plus j'y méditais, je me suis dit, non. C'est un de nos appels prioritaires dans notre vie. Et rappelez-vous, il y a des tas de choses que vous pourrez faire plus tard. Mais ces quelques années que Dieu vous confie aux enfants, vous ne pourrez plus jamais le rattraper. Vous leur donnez de l'argent, vous pouvez les envoyer en vacances, vous pouvez leur donner une éducation, leur faire faire des études, mais rien ne pourra jamais remplacer le temps que vous aurez passé avec eux et l'intérêt que vous aurez montré. Et c'est vrai que la formation scolaire a son importance pour l'avenir des enfants, mais je crois qu'il y a des situations où nous pouvons rattraper certaines choses, même matérielles, même au niveau de la formation, mais s'il y a des carences au niveau affectif, des problèmes au niveau de l'âme, des choses non résolues, ils vont transporter ça avec eux pendant toute leur vie. Et éventuellement, eh bien, ils auront peut-être atteint une position sociale ou professionnelle, et puis leur vie personnelle est un désastre. Et ça sert à quoi alors? Donc nous avons besoin de considérer que ce n'est pas un appel pour juste cette personne que je viens de citer, cet exemple. Mais c'est un appel de la part de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous sommes destinés à élever des champions pour lui. Donc il y a la petite enfance, c'est vrai. Mais vous dites peut-être, bon, c'est un programme sur 20 ans. Non, il y a des choses qui peuvent aller très vite. Ils peuvent être des champions pour Dieu déjà à leur niveau. Et des enfants tout petits, ils peuvent déjà, et c'est ce que nous attendons aussi, ils peuvent prophétiser, ils peuvent prier, ils peuvent faire une différence dans le royaume de Dieu. S'ils donnent leur dîme de 50 centimes ou de 1 franc, Jésus regarde et il le voit. De la même façon qu'il était présent quand la femme veuve a mis sa petite pièce dans le tronc et les autres mettaient de la superflu et Jésus a dit, j'ai vu ce qu'elle a fait. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Et à cause de ça, mais je suis sûr que cette veuve, elle n'est pas morte de faim. Elle n'est pas morte de faim après avoir donné la dernière pièce qu'elle avait en présence de Jésus. C'est impossible. Impossible. Elle a donné au Seigneur tout ce qu'elle avait. Et Dieu ne peut pas, à ce moment-là, ne pas répondre. Ce n'est pas possible. Et donc, ces choses peuvent faire une différence. L'âge n'est pas un temps, et le temps peut aller n'est pas un problème, et le temps peut aller très vite, et qu'il soit déjà employé dans le royaume de Dieu. Je suis de ceux qui croient à un retour proche de Jésus. Je crois à un retour proche de Jésus. Et je ne sais pas, même, je ne vais pas faire de prévision, parce que j'en sais rien, et je ne sais pas même si mes enfants vont grandir et puis se marier comme nous l'avons fait. Et peut-être les événements vont se bouleverser et tout va être différent. Mais en attendant, eh bien, je vais leur donner tout ce que je peux pour qu'ils remplissent eux aussi l'appel de Dieu sur leur vie. Et je vais non pas décider, comme j'ai 5 enfants, ça donnera un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur. Non, ce n'est pas à moi de décider ça. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui destine. Mais je peux le souhaiter. Je peux le souhaiter qu'il serve le Seigneur. Peut-être aucun d'eux ne sera dans un des 5 ministères dons de la parole. Mais que Dieu va les mettre dans des positions où ils vont le servir à leur façon. Et l'important, c'est qu'ils aient cette relation vivante avec Dieu et qu'ils vivent cette vie de plénitude qui n'est possible que dans la mesure où nous sommes avec le Seigneur. Élever des champions pour Dieu, c'est tout d'abord ce qu'il se passe à la maison. J'en ai déjà parlé, manifester de l'intérêt, manifester le vrai amour. C'est tout le problème déjà d'accepter nos enfants. Est-ce que l'enfant est désiré? Tous les enfants ne sont pas désirés. Mais nous, en tant que chrétiens, nous pouvons réagir. Et dire, oui, c'est vrai, Seigneur. Ça arrive des fois. Ça arrive qu'un enfant ne soit pas désiré, même chez des chrétiens. Hein? C'est pas quelque chose qui doit vous surprendre. C'est possible. Alors, que pouvons-nous faire? Eh bien, demander à Dieu. Dire, Seigneur, cet enfant, effectivement, on n'avait pas prévu de l'avoir, mais il est là, il vient, et maintenant, c'est un cadeau de toi. Aide-nous à l'aimer. Aide-nous à nous intéresser à lui, à mettre vraiment le meilleur que nous avons en lui. Hein? Comprenez ce que je veux dire? C'est important de le faire. Il ne faut pas essayer de se cacher derrière quelque chose. Bon, je suis chrétien, donc automatiquement je dois aimer. Non, des fois ce n'est pas le cas. Et alors on peut demander à Dieu de changer ça. Sinon, pour les autres, bien sûr, c'est plus facile. L'enfant qui était attendu, désiré, eh bien maintenant il est là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Premièrement, ce n'est pas notre jouet. Hein? Ce n'est pas notre poupée. Même si des fois, on prend plaisir peut-être à habiller les petits-enfants d'une façon ou d'une autre, ou les cajoler, de les promener, de tout ça, mais ce n'est pas notre poupée. C'est d'abord un être spirituel qui va grandir et qui est destiné à vivre avec Jésus éternellement. Et pour ça, nous avons une première responsabilité, c'est de prendre soin. Et pas seulement soin physiquement, extérieurement, mais surtout spirituellement. Vous croyez que l'esprit est la chose la plus importante? Moi, je crois. Parce que il nous est dit, les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Si nous sommes tellement rempli de l'esprit du monde en disant, bon, s'ils sont bien nourris, bien habillés, s'ils ont des jouets, s'ils ont plein de choses, etc., alors tout va bien pour eux, mais c'est une illusion totale. Non, tout va bien pour eux seulement dans la mesure où leur esprit est en contact avec leur Créateur. Parce que toutes les choses visibles vont disparaître. Alors que faut-il faire? Il faut, dès le plus jeune âge, à la maison, ce n'est pas le travail seulement d'un pasteur ou d'une école du dimanche, à la maison, leur inculquer, dit la parole de Dieu. Inculquer les préceptes de Dieu. Ce mot est très fort, inculquer. Ça ne veut pas dire, j'en parle de temps en temps, j'ai pris à table ou des choses comme ça. Inculquer, ça veut dire mettre dedans au point qu'ils en sont totalement imprégnés. C'est autant que ça. Vous voulez qu'ils soient à moitié pour Dieu, à moitié pour le monde? Moi, je les veux 100% pour Dieu, entièrement. Deutéronome 6 nous dit « Voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. » Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Toi, ton fils et le fils de ton fils. Nous avons ce petit proverbe local ici que les parents sont là pour éduquer les enfants et les grands-parents pour les gâter. Et c'est contraire à la parole de Dieu. Si les parents, grands-parents gâtent les enfants, ils travaillent contre la volonté de Dieu. S'ils leur donnent un bonbon une demi-heure avant de passer à table, ils travaillent contre la volonté de Dieu et ils sabotent votre travail d'éducation. C'est aussi grave que ça. Et ça a l'air insignifiant. Mais c'est juste un petit bonbon. Non, c'est important. Mais ces gens, souvent, eux-mêmes n'ont pas lu Deutéronome 6, sinon ils sauront qu'ils ont cette responsabilité devant Dieu aussi de transmettre la foi et la parole de Dieu. Alors il faut éduquer dans les deux sens. Il faut éduquer vers le haut et vers le bas. Mais ils ont besoin aussi d'entendre. Voilà. Afin que tes jours soient prolongés, tu les écouteras donc, Israël, Israël, le peuple de Dieu, et toi, Église, tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliiez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Il y a une promesse, vous voyez, dire, oh les commandements, encore des commandements. Non, il y a une promesse, il y a un pays de lait et le miel. Préférez vivre dans le désert? Préférez retourner en Égypte où il y a l'esclavage? Non, tout le monde, toute personne sensée veut vivre dans le meilleur des pays où il y a le lait et le miel qui coulent. Eh bien, c'est ce pays spirituellement qui nous est promis. Eh bien, voilà comment y rentrer. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Si les commandements de Dieu ne sont pas dans votre cœur, si l'Éternel n'est pas le numéro un, vous aurez beaucoup de mal à communiquer quoi que ce soit de la foi à vos enfants. Vous êtes d'accord? Parce que ça ne seront que des préceptes, des lois, des trucs rigides qu'il faut faire, parce qu'il faut faire, parce que c'est comme ça, c'est la loi, on ne discute pas. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, quand ils sont dans le cœur, tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Vous parlez souvent dans votre maison des choses de Dieu avec vos enfants. Quand tu iras en voyage, parle des choses de Dieu quand on est en voyage. Quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, ça veut dire la dernière chose que vous pensez le soir. Les dernières choses qui influencent vos enfants, ce n'est pas le film d'horreur qu'ils viennent de regarder, mais c'est quelque chose de Dieu. Après, parce que sinon, après, pendant toute la nuit, ils seront influencés par les choses mauvaises qu'ils auront vues. Vous vous rendez compte, pendant des heures, dans leur esprit, ça va continuer, le film va continuer de travailler, et le résultat est triste. Quand tu te lèveras, la première chose qu'on fait dans la journée, des fois, il y en a qui ont des réveils plus difficiles. Il y en a qui ne sont pas encore vraiment réveillés, ils sont grognons, tout ça. Eh bien, chacun doit trouver sa façon de se réveiller pour rentrer dans une bonne journée. Mais quand tu te lèveras, tu en parleras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc, vous avez le droit d'afficher des versets de la parole de Dieu, parce que ça va parler. La parole de Dieu sera partout, devant leurs yeux. C'est important. Donc voilà pour ce qui se passe à la maison. Voilà ce que vous êtes amenés à faire. Leur inculquer d'aimer l'Éternel. Les encourager à la parole et à la prière. Là encore, si c'est juste un devoir religieux que vous-même vous faites, vous aurez aussi beaucoup de mal à le transmettre. Mais s'ils vous voient aussi de temps en temps avec la Bible, ça arrive ? Ou est-ce qu'ils ne voient jamais le papa ou la maman avec la Bible ? Vous voyez, c'est nous parlons plus par ce que nous faisons que des fois par ce que nous disons. S'ils ne voient jamais la parole de Dieu dans votre main, s'ils ne vous voient jamais prier ou du moins dire « Papa ou maman se sont absentés un moment dans leur chambre, veulent prendre un temps pour prier », ça ne va pas créer en eux ce modèle de ce que c'est vraiment une vie chrétienne. Et je ne crois pas que ce soit exagéré, ça, de penser que ça fait partie de la vie chrétienne. De Daniel, le prophète, on savait, tout le monde savait dans le royaume tout entier qu'il priait 3 fois par jour. Et même, ils l'ont surpris, ils se sont dit « Ah, ça va bientôt être l'heure, Daniel va prier ». Et bien sûr, il était là en prière, et hop, il rentre par surprise dans la porte, et le voilà, il était en train de prier. Pris en flagrant délit. Et je trouve ça formidable, tout le monde savait qu'il était en train de prier. Alors ça veut dire que c'était pas seulement une vie secrète, cachée, vous voyez. Il y a des choses que les gens ont le droit de voir. On a le droit aussi, je ne sais pas, d'entendre qu'il y a des louanges. Si la maman est à la cuisine et qu'elle chante pendant qu'elle fait le repas, c'est pas plus mal, hein, c'est permis. Plutôt que je ne sais quoi. Ensuite, comme je disais, l'exemple, les modèles que nous sommes ou que nous ne sommes pas, c'est très important pour les enfants. Alors nous ne sommes pas parfaits, hein, aucun d'entre nous, ni moi, ni vous. Mais ce qui est important à ce moment-là, quand on n'est pas parfait, c'est de reconnaître ses torts. Il y aura toujours du respect pour quelqu'un d'honnête. Quelqu'un qui cherche à paraître ce qu'il n'est pas, ça ne marchera pas. Donc il est important, reconnaître ses torts, ça veut dire il y a une action de repentance dans notre vie. On change de mentalité. Avant, je me disais, si seulement je garde mon attitude de père digne, et je ne laisse rien paraître, mais les enfants, rapidement, ils vivent avec vous, voient ce qui va ou ce qui ne va pas. Vous perdez votre sang-froid. Eh bien, à ce moment-là, eh bien, la fausse idée, c'est de dire, si je m'humilie devant mes enfants ou devant mon conjoint, je perds tout crédit. Eh bien, non. Au contraire, vous gagnez le respect en reconnaissant vos torts. Ensuite, ce qui est important aussi par rapport au modèle que vous montrez, c'est les paroles prononcées et vos comportements. Est-ce que sur toute situation de la vie, et je parle de n'importe quoi, pas seulement de la parole de Dieu, tout ce que vous dites est toujours négatif, insatisfait, critiqué, le gouvernement et ses décisions, les nouvelles de la radio, le voisin et ce qu'il fait, et les professeurs et les maîtres d'école, et l'entraîneur du club de foot ou je ne sais quoi, et toujours c'est mauvais, oui, ils sont mauvais ces gens, ils sont négatifs, insatisfaits, et vous avez peut-être raison. Voyez, c'est ça qui est important. Vous avez peut-être raison. Peut-être le gouvernement est mauvais. Peut-être il prend des mauvaises décisions. Et le maître d'école n'est pas bon. Et l'entraîneur n'est pas à la hauteur. Et le voisin fait n'importe quoi. Et vous avez peut-être raison. Mais vous êtes en train d'imprimer un modèle pour votre enfant. De quelqu'un de critique et de négatif et d'insatisfait. Et il va reproduire ce modèle. Vous ne pouvez pas changer le monde. Hein, vous avez compris déjà ça? Mais ce que vous pouvez changer, c'est votre vie et votre monde. Celui-là, vous pouvez le changer. Alors, n'essayons pas de décrocher la lune. Hein. C'est vrai que de temps en temps, on a aussi envie ou besoin de dire des choses qui ne vont pas, parce qu'on ne peut pas non plus faire comme si tout allait bien. Hein. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Donc, il y a aussi un temps d'éducation, on explique aux enfants. On dit, voilà pourquoi on n'est pas d'accord. Parce qu'on veut, si on ne veut pas qu'ils aient un mauvais modèle chez nous, on ne veut pas peut-être forcément non plus qu'ils fassent comme chez les voisins. D'accord ? Donc c'est important aussi de dire, nous ne sommes pas d'accord avec ceci ou cela, mais ça ne veut pas dire qu'on leur tape dessus tout le temps, on les critique, on est négatif. D'accord ? Une chose particulière aussi, par rapport à nos attitudes et le modèle que nous avons, c'est l'attitude au niveau du couple. On ne va pas maintenant rentrer dans le détail, ce n'est pas un message sur les relations mari-femme, mais vous pouvez relire Éphésiens 5, 22 et suivant, et Colossiens 3, 18 à 21. Donc c'est le « Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes ». Eh bien, vous avez besoin de montrer une attitude qui soit selon la parole de Dieu. Vous avez besoin de vous aimer, de vous respecter mutuellement, sinon vous ne pourrez jamais expérimenter Éphésiens 6, quand il est dit « Et vous, enfants, obéissez à vos parents », Éphésiens 6 vient après Éphésiens 5. Et Éphésiens 5 place d'abord les bases d'une relation de couple qui soit à la gloire de Dieu. Parce que sinon, il sera très difficile pour vous de vous faire obéir de vos enfants et de pouvoir communiquer ces préceptes que vous devez communiquer dans Deutéronome. Ça sera difficile si vous ne faites pas l'autre partie. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Ça ne veut pas dire que les enfants doivent dire « Non, 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 nous on n'obéit pas parce que toi non plus tu n'obéis pas ». Ce n'est pas une excuse pour eux, mais c'est une façon de comprendre pourquoi ça ne marche pas. « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse, « afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre ». Quand vous corrigez vos enfants, quand vous les rectifiez, vous êtes obligé même de leur donner une fessée ou que sais-je, à ce moment-là, il faut leur expliquer. Vous n'avez pas besoin de prendre une demi-heure à chaque fois, mais de dire c'est nécessaire, c'est nécessaire. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Irriter, ça veut dire avoir des exigences insensées. Tout le temps ceci, cela, et en rajouter pour leur rendre la vie impossible. Il faut avoir des choses, je dirais, des exigences, non pas au rabais, mais pas non plus des choses insensées, folles, qui font que c'est la vie de caserne à la maison et que tout devient exagéré. Non, ils ont besoin aussi d'être des enfants. Ils ont besoin aussi d'avoir des moments, espace, liberté, où ils puissent se défouler. Hein, peut pas toujours rester tranquille sur ta chaise, bouge pas, tais-toi. Non, c'est pas une vie, ça. L'attitude de la femme, je parle maintenant aussi du couple où par exemple le mari travaille et la femme est à la maison. Si le mari est beaucoup absent, c'est l'attitude de la femme en l'absence du mari qui va déterminer aussi l'autorité qui sera manifestée dans la famille. Je m'explique par là. Les enfants verront se refléter l'autorité du mari sur son épouse. Et elle n'aura pas besoin de dire « Attends que papa revienne et tu verras ». Non, il y aura la même autorité qui est sur le chef de la famille, sera aussi sur elle, dans la mesure où elle sait aussi honorer son mari et parler bien de l'image du père. À remarquer que le monde fait tout ce qu'il peut pour détruire systématiquement le père. Nous avons nos enfants qui regardent de temps en temps aussi des cassettes. Alors il y a le film Beethoven, combien ont déjà regardé Beethoven ? 1, 2. Donc il y a des choses, des aspects amusants, et il y en a des autres qui sont catastrophiques, catastrophiques pour la famille. C'est un père qui est faible. Il est faible, il n'est pas à la hauteur du tout. Il dit non, 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 jamais un chien ne viendra dans ma maison, et l'instant d'après, ils ont le chien. Ensuite, vous pouvez regarder à nouveau certains films à la lumière de certaines choses de la parole de Dieu et vous allez découvrir que certains films qui semblent inoffensifs sont très mauvais. Très mauvais. C'est un très mauvais film. Mais ça ne veut pas dire que j'empêche forcément mes enfants de regarder. Mais ce qui est important, c'est de montrer, regardez comment il agit. Regardez comment il se comporte. Regardez comme les enfants essayent de le manipuler. Et dans ce sens, c'est quelque chose qui est des fois très mauvais. Les très mauvais films ne sont pas forcément des films où le sang coule en abondance. Je ne dis pas que ça c'est des bons films, mais je dis que ça peut être très mauvais sous un couvert de choses tout à fait gentilles, animaux, famille, etc. Voilà pour Beethoven, il a réglé son compte. Attitude, il nous regarde concernant l'attitude que nous avons par rapport au monde. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit il n'y a pas longtemps, ce verset de la parole de Dieu, n'aimez pas le monde. Si les enfants voient que vous aimez le monde, ça se voit ça. Si vous êtes tout le temps attiré par les choses du monde, désirez tout ce que tout le monde a, faire les choses comme les gens font exactement, alors ils voient que l'amour du monde est en vous. Et si l'amour du monde est en vous, vous allez le communiquer aux enfants aussi. Ils vont désirer les choses du monde, comme vous les désirez. Donc vous aurez beaucoup de mal à leur communiquer l'amour du Père, beaucoup de mal à leur communiquer de se consacrer pour la parole de Dieu, prendre du temps dans la prière, parce que tout votre être, toute votre personne parle monde, monde, monde. Pas de temps pour l'Église, pas de temps pour la parole de Dieu, mais on est attiré par tout ce qui se passe dans le monde. Votre attitude à l'égard du monde. Un autre point, voilà pour ce qui concerne ce qui se passe à la maison, c'est l'inquiétude. Est-ce que vous êtes inquiet pour vos enfants? Que vont-ils devenir? Si vous êtes inquiet pour vos enfants, ils vont le ressentir. Ils vont ressentir ça et ils vont d'une certaine façon aussi se sentir trahis. C'est un manque de confiance. Je ne crois pas que mon enfant arrivera. Je ne crois pas que mon enfant va servir Dieu. Je ne crois pas que mon enfant pourra surmonter cette tentation. Je ne pense pas que mon enfant, etc. C'est des inquiétudes. Des inquiétudes. Je ne parle pas d'avoir confiance au point d'en être naïf. Mon enfant, il est fort dans la foi. Il peut aller avec tout le monde qu'il veut. Jamais il ne sera ni tenté ni séduit. Je ne parle pas de naïveté. Je parle qu'il sente la confiance, qu'il sente que vous n'êtes pas constamment inquiet pour eux et pour les décisions qu'ils vont prendre et pour ce qu'ils vont devenir. C'est important. Et j'aimerais encore, dans ce sens, parler de leur fréquentation. Le psaume 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Tout être humain, homme, femme, enfant, désire être heureux. C'est normal. On est créé comme ça. On recherche le bonheur. Le diable, il nous a souvent séduits en nous faisant croire des choses qui ne sont pas. Si tu as ceci, tu seras heureux. Si tu as cela, tu seras heureux. Souvent, il essaie de nous tromper dans ce domaine. Nous savons que le vrai bonheur ne peut se trouver qu'en l'Éternel. Celui qui trouve son plaisir, il est dit dans la loi de l'Éternel. Le mot plaisir, tout le monde sait ce que ça veut dire. Les gens courent après le plaisir. N'est-ce pas vrai? C'est une des choses les plus fortes qui soient dans notre vie. Et c'est une chose normale que Dieu a créée en nous. Désir d'être heureux et vouloir éprouver du plaisir. Ce n'est pas le diable qui a inventé ça. Par contre, ce que lui, il a fait, c'est détruire la nature du plaisir et du bonheur tel que Dieu l'a voulu et l'a perverti. Ainsi, nos enfants peuvent aussi être attirés par ce que le monde appelle bonheur et plaisir. Des choses qui, de bonnes qu'elles étaient à la base, souvent sont perverties. Mais ici, il nous est dit quoi? Eh bien, heureux celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est votre responsabilité en tant que parent de voir qui sont les amis de vos enfants, quels sont leurs copains et leurs camarades. Et je fais exprès la différence entre les trois. Amis, copains, camarades. Si vos enfants, à moins d'être de faire l'instruction chrétienne, l'instruction parentale à la maison. Mais sinon, vos enfants sont à l'école, ils ont donc des camarades de classe. Vous pouvez pas l'éviter. Vous pouvez pas dire au professeur, écoutez, mettez 2 mètres autour de mon enfant pour que personne ne le touche. Il sera en contact. S'il fait du sport ou de la musique ou autre chose, il sera en contact avec d'autres personnes. Donc là, il y aura une influence. Mais cette influence sera limité, surtout si ça se passe bien à la maison. Et si s'il y a des problèmes, s'il y a des moments difficiles, ils sauront à ce moment-là être attentifs. Et vous le communiquez, vous direz, écoute, papa, maman, j'ai vraiment, ça se passe mal, regarde tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, et vous pourrez intervenir d'une façon ou d'une autre. Rappelez-vous que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les gens avec qui on s'associe, ceux avec qui on est, ont une influence sur nous. Mais alors tout dépend. Si c'est juste des gens que je croise de temps en temps, ou je suis obligé d'être avec eux au niveau du travail, je suis peut-être physiquement, mais mon âme n'a pas besoin d'être liée avec eux. Vous comprenez ? Ça c'est important. Mais il y a une différence, donc les camarades, et ensuite les copains. Les copains, ça peut être les enfants dans la rue, sur la place, là où ils se retrouvent pour faire des jeux. Et là, je dis encore, il ne faut pas retirer nos enfants de partout. Être attentif, voir est-ce qu'ils ne sont pas en train d'être entraînés dans une bande ou je ne sais quoi. Être attentif, mais nous disons à nos enfants, des copains, vous pouvez en avoir beaucoup. Dans le sens que vous jouez une fois au foot avec celui-là, le lendemain c'est la balançoire avec un tel, ou encore autre chose, et finalement ils ont des activités, ils ont des contacts avec des enfants, mais leur âme, encore là, n'est pas liée. Et il y a des influences, il faut faire attention, mais copain ça veut dire co et pain, partager le pain. En fait, copain est un mot dans son étymologie, plus fort que dans la réalité. Hein? Parce qu'on peut avoir beaucoup de copains, mais en réalité, copains, c'était encore plus fort. C'est là que je partageais le pain avec quelqu'un. Mais nous pouvons dire que nous ne mangeons pas de ce pain-là à quelqu'un, dans le sens que, non, là, on veut bien se voir de temps en temps, mais ça ne va pas plus loin. Mais ce qui est le plus important, je crois, c'est de prier pour leur fréquentation, qu'ils aient des bons amis. Une amitié, une vraie amitié. Des gens avec qui ils peuvent se stimuler mutuellement. Et là, il faut que, absolument, que des amis ne se trouvent que dans le Seigneur. Que dans le Seigneur. Il n'est pas possible d'avoir des amis en dehors. D'accord ? Ils peuvent avoir des camarades et des copains, mais priez. Exercez votre foi. C'est un défi que je vous lance. Vous dites, impossible, il n'y a pas d'amis chrétiens qui habitent près. Impossible n'existe pas dans la parole de Dieu. Dieu est le Dieu des miracles. Pourquoi ne pas en faire un objectif? Seigneur, donne à ma fille, donne à mon fils un ami. J'ai dit dans l'église ou en dehors, parce que dans l'église, ils ne sont pas tous parfaits non plus. Ils sont en train d'apprendre et de grandir. Mais que, au niveau de l'amitié, et c'est très important pour eux, qu'ils trouvent quelqu'un qui va les stimuler. Et vous savez quoi? S'il n'en a pas d'autre, vous êtes leur meilleur ami. Pourquoi pas? Quoi de plus beau qu'un père et son fils qui partagent certaines activités ensemble et qui peuvent même aller au-delà, créer un lien au niveau de l'âme. Et alors vous verrez que ça va grandement vous aider pour partager des choses du Seigneur. Et de la même façon entre une mère et sa fille. Et ça peut aussi, d'une certaine mesure, être croisé entre mère et fils ou père et fille. Mais c'est possible. Ayons cette confiance en Dieu qu'il peut agir. Termine par Éphésiens 3:20. Dieu peut faire par la puissance qui agit en vous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et moi, je veux demander beaucoup plus encore pour mes enfants. Beaucoup plus. Parce que je me rends compte que vous aussi, que le temps est si précieux, tellement court. Nos journées, nos semaines sont tellement chargées que des fois, on se dit, est-ce que j'ai eu du temps de qualité avec mes enfants aujourd'hui? Ou cette semaine même? Un temps de qualité, ça ne veut pas dire quelque chose où tout le monde est assis devant la télé, on est ensemble en famille. Hein? Ça peut être chouette comme expérience, regarder un film ensemble, mais ce n'est pas forcément un temps de communion. Mais un temps de communion, on est tous les deux. On prend le temps. Nous ne comptons pas sur nous-mêmes. Nous ne pourrions même pas, nous serions écrasés par la tâche, nous ferions tout de travers, mais nous comptons sur toi. Nos yeux sont sur toi pour dire, Seigneur, aide-nous. Fais grandir notre foi, augmente notre foi pour que nous puissions affronter cette situation, faire transformer certaines circonstances négatives à l'égard de nos enfants pour qu'ils réussissent. Nous sommes destinés à les élever selon toi, à en faire, Seigneur, des hommes et des femmes qui vont te glorifier dans le royaume de Dieu. Nous ne voulons pas laisser ces enfants dans les griffes de l'ennemi et nous déclarons maintenant dans le nom de Jésus, nous brisons la puissance du diable sur la vie de nos enfants, toute l'emprise du monde, toute la mauvaise influence de tout camarade, tout copain qui serait là à vouloir distiller dans leur vie des choses négatives ou mauvaises. Nous résistons au nom de Jésus. Nous nous y opposons. Prenez cette autorité. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.